Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Ils auraient pas dû me foutre un moulin d'âne sur la tête. C'est ça, je crois. Ouais, le démarrage de tout. Ils auraient pas dû. Parce que j'étais loin d'être un âne. À leurs yeux, peut-être. Mais pas aux miens. J'étais loin d'être un âne, ouais. Parce que t'as pas besoin de savoir lire pour apprendre à marcher. Eh oui, je me suis battu. Je suis battu pour avancer. Je m'appelle Slimane et j'ai 15 ans, je vis chez mes vieux à la Courneuve. J'ai mon CAP délinquant, je suis pas nul, j'ai fait mes preuves. Non. Alors pour me sentir appartenir à un peuple, à une patrie, je porte tout de mon cou sur mon cuir, le kéfier noir et blanc et gris, sans rien inventer les frangins. Les amis qui crèvent aussi, tant. J'aurais pu écrire, salut, ça m'appelle Gérard, j'ai 50 ans. J'ai mon CAP, boulanger, je suis pas un nul, j'ai fait mes preuves. Dans la bande, c'est moi qui ai le plus grand. Bon, sur mon bras, il y a tatoué Renault. Tant. Je savais pas lire, maintenant j'ai appris. Non. C'est ce qui va me permettre d'avancer, c'est ce qui va me permettre de me battre, c'est ce qui va me permettre de voir les choses dans le monde dans lequel je vis. Non. Un monde un peu dégueulasse, non. Là où on te fait pas de cadeaux, là où les gens s'acharnent sur toi, là où t'es vraiment obligé de te battre si t'as vraiment envie d'avancer, dans un monde un peu crétin, un peu débile aussi parfois, tant. Un monde que je comprends pas, un monde où je suis ignorant, dans un monde à laquelle je voudrais bien être. Des amis qui crèvent aussi. Et là, dis donc.
Eh bien,
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview. Émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, trois invités qui représentent les rencontres ad hoc, le festival qui aura lieu à Mirbel et Blacon du 4 au 8 septembre. Des films documentaires hors circuit qui seront proposés donc au visionnage du public. Et pour ça, donc, nous avons autour de la table Brigitte, bonjour.
Bonjour.
Marine.
Bonjour.
Et Colline.
Bonjour.
Toutes les trois, vous êtes ici par passion du cinéma, du documentaire ?
Pas que. Moi, je m'occupe cette année, et pour la première fois, c'est une première expérience pour moi, des bénévoles. Donc, c'est moi qui inscris les bénévoles sur les plannings, qui les accueille. Voilà, beaucoup de mails, de réunions, et essayer d'organiser... leur accueil et leur bien-être tout au long du festival.
C'est pareil pour Brigitte et Colline.
Alors moi, Brigitte, je fais partie du collectif du festival et je m'occupe de la programmation, par exemple. J'ai visionné tous les films et j'ai fait partie de l'équipe qui les sélectionne. Et puis je m'occupe de la communication sur le festival et de plusieurs autres choses. Et c'est un travail de toute l'année.
Et puis moi, ben, je m'occupe de l'accueil des invités. Alors, c'est principalement les réalisateurs, puisque le concept du festival, c'est quand même aussi de proposer des échanges avec les réalisateurs après les projections. Donc, on essaie de faire en sorte que le maximum, voire la totalité des réalisateurs soient présents. Et donc, voilà, donc je m'occupe en amont de les contacter, de recevoir tout ce dont on a besoin, de... prévoir leur trajet, tout ça, les héberger, voilà.
C'est une belle manière de terminer les vacances d'été, donc avec ce festival qui dure en gros 5 jours.
Alors le festival commence le mercredi soir avec une soirée d'ouverture pendant laquelle on diffuse un film au cinéma Eden à Cré. Et ensuite, ça commence sur le site de Mirabel et Blacon le jeudi midi. D'habitude, on commençait avec une projection le jeudi soir. Et cette année, on rajoute quelques projections pour qu'on puisse faire rediffuser systématiquement tous les films. Ils passeront tous deux fois, donc les gens pourront vraiment voir tout ce qu'ils ont envie de voir. Et donc, on commence le jeudi à midi et ça se termine le dimanche soir. Voilà.
Et donc, ça sera l'occasion de découvrir combien de documentaires sur cette période ?
Alors, on va diffuser 18 films documentaires, donc qui seront chacun diffusés deux fois. Et il y aura aussi des documentaires sonores qui sont diffusés sur le samedi et dimanche dans une superbe tente caïdale. C'est sur des tapis.
Ça, c'est en partenariat avec Radio Saint-Féréol.
Et ça se fait en partenariat avec Radio Saint-Féréol. Et puis, tous les jours, on a des apéros-concerts à 18h. Donc, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, avec des groupes en général régionaux. On a aussi des tables rondes qui se déroulent le matin, de 10h à midi. Et puis, ce qu'on appelle une nouveauté cette année, on appelle ça la Caravadoc. On a une caravane qui va diffuser des courts-métrages documentaires en continu toute la journée. Alors on en reparlera peut-être, mais c'est la nouveauté de cette année, la Caravadoc. Et puis voilà, on a aussi autour du festival le retour du musée itinérant de Germaine, qui est un parcours scénographique et sonore. C'est des installations qui sont sur le site et les gens s'assoient à différents postes qui sont installés d'une manière assez chouette et pittoresque. Et on écoute des récits de vie de vieilles femmes. Donc c'est un parcours libre et ça a eu tellement de succès l'an dernier que Germaine revient cette année.
Oui, j'avais déjà eu l'occasion, il y a à peu près 4-5 ans, une émission concernant Germaine, une exposition un peu itinérante. Hein.
Ouais.
C'est une sorte d'installation, on peut s'installer dans un mobilier et puis passer à l'écoute.
Ouais, ouais.
Eh bien, en tout cas, je vous remercie toutes les trois d'être venues nous parler de ce festival ad hoc. Non, je déconne. on va aborder plus en profondeur donc, la programmation, à commencer déjà par les documentaires, hein, qui sont quand même le nerf de ce festival. Les choix de ces films n'ont aucune thématique. Hein, comme l'année dernière, il me semblait qu'il y avait plus le coup de foudre d'un documentaire qui aborde ou qui permet sa sélection.
Alors, aux rencontres ad hoc, on n'a pas de thématique, non. Par contre, on a certains critères. On ne sélectionne, donc on lance un appel à films et les réalisateurs proposent des films. Et donc, les limites qu'on met, c'est qu'on ne veut que des documentaires qu'on dit hors-circuit. Et hors-circuit, pour nous, ça veut dire qu'ils n'ont pas été diffusés ni à la télé, ni en salle de cinéma. En revanche, ils peuvent avoir été diffusés dans des festivals ou dans d'autres lieux, mais on veut qu'ils soient hors-circuit au sens où on l'entend. On a demandé à ce qu'ils ne dépassent pas 2 heures non plus. Et puis, on les sélectionne aussi dans la mesure où leur réalisateur promet de pouvoir être là. C'est une des conditions parce qu'on attache beaucoup, beaucoup d'importance à la rencontre entre le réalisateur et le public pour discuter à la fois du sujet et puis à la fois de comment on réalise des documentaires en France aujourd'hui parce que c'est pas toujours tout à fait tout simple. Et donc voilà nos critères. Mais après, notre sélection de cette année propose des films sur plein de sujets différents. Et puis, c'est vrai qu'on aime bien aussi les sujets
engagés,
voilà.
L'actualité d'aujourd'hui vous inspire justement dans ces choix ?
Forcément, l'an dernier, on a eu plusieurs films sur la question des migrants. Alors, cette année, par exemple, on a un film sur la campagne électorale au Brésil. Alors si on peut dire que c'est de l'actualité, on a un film sur la ville de Charleroi qui a été fortement sinistrée et qui est en train de relever la tête. Donc on a un film qu'on va projeter en plein air un soir et qui fait le portrait de cette ville qui est en train de se redresser grâce à la culture. On a un film Freeman qui est projeté le vendredi en séance plein air le soir. Donc Freeman, c'est un film autour d'un jeune noir qui est emprisonné, condamné à mort depuis plus de 20 ans et qui est en prison pour il est condamné pour quelque chose pour laquelle il a été prouvé qu'il n'était pas fautif ni responsable, mais en gros, on connaît bien le problème des Noirs et des prisons américaines. Et donc, ce gars tient le coup, il est très actif, il a des activités artistiques, et sa femme, qui est une Française, collabore avec lui activement pour organiser des expos, pour faire connaître son cas, etc. Et donc, ce film... nous montre sa vie en prison, nous détaille le problème pour lequel il a été emprisonné et montre tout le soutien qu'il y a autour de lui. Donc sa femme sera là pour animer le débat et il est prévu qu'on ait une demi-heure d'échange téléphonique avec lui en direct avec la prison ce soir-là.
Du coup, je rectifie un petit peu, ça ne nous montre pas du tout sa vie en prison parce que la réalisatrice n'a finalement pas du tout obtenu de droit de l'autorisation d'aller en prison. Par contre, elle rencontre tout son entourage et elle, en fait, elle est en contact avec lui tout le temps, mais par téléphone. Et il y a des reproductions quand même aussi. Enfin, il est hyper intéressant. Ouais.
Colline, toi-même, tu fais partie de ce groupe de personnes qui sélectionnent les propositions ?
Non, alors moi, je n'ai pas fait partie de la programmation. Après, je m'attache à regarder les documentaires parce que j'accueille les réalisateurs. Mais non, je n'ai pas fait partie de la programmation. C'est un très lourd travail quand même. Alors du coup, peut-être que Brigitte en parlera mieux, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de visionnage.
Comment vous abordez le visionnage d'un documentaire chacune ?
Comment on aborde ? Moi, personnellement, ce que j'attends d'un documentaire, c'est qu'il y ait, en dehors du sujet qui m'intéresse, c'est qu'il y ait un vrai regard d'auteur, quoi, qu'il ait un point de vue et une manière de traiter son sujet qui soit personnel et qui sorte de... que ce soit un vrai film de cinéma, quoi, que ce soit pas seulement un reportage ou un... On attend, de toute façon je ne suis pas la seule comme ça, ad hoc on a envie de sélectionner des documentaires qui ont un petit quelque chose en plus, un vrai regard, un vrai travail de réalisation, que ce soit des vrais films de cinéma, avec des traitements un peu intéressants. Et Freeman, pour revenir là-dessus, c'est assez intéressant le fait qu'elle n'ait pas pu filmer dans la prison parce que les coups de téléphone à son mari emprisonné sont presque plus forts que si on avait de l'image, parce que chaque coup de fil démarre par un répondeur, enfin une bande enregistrée de la prison qui cadre ça, et c'est assez effrayant, quoi, d'entendre. Et puis à la fin, on entend « il vous reste 30 secondes, il vous reste 15 secondes », enfin c'est assez fort, et donc voilà. Donc voilà ce que j'attends d'un documentaire.
Et Colline alors, ou Marine ?
Bah moi c'est déjà de découvrir de nouvelles choses. Et l'année dernière, je me souviens que à la fin du teaser d'Adoc, c'était « Venez prendre des nouvelles du monde ». Et pour moi c'est ça en fait, c'est avoir cette chance d'avoir l'écran et des gens qui montent des films sur la réalité du monde, peu importe quel sujet, peu importe... sur quel pays, quelle ville, etc. Et avec ces documentaires hors-circuit, effectivement, il y a quelque chose de l'humanité personnelle qui est très fort, et du coup, ça vit très fortement. Donc moi, en tout cas, je ressens quelque chose de réaliste, et du coup, j'en ressors avec... Bon, bah voilà, j'ai appris ça suite à ce film. Du coup, j'en ressors grandi, je vais pouvoir en parler autour de moi. Et du coup, je me dis que ça peut faire bouger le monde, même si c'est juste des petites gouttes. Voilà.
La réalité, ou de ce qui est capté par le documentariste. Est-ce que vous en ressentez des émotions ?
Complètement. Complètement. En tout cas, l'année dernière, j'ai pu voir pas mal de documentaires et à chaque fois, c'était des émotions très fortes. Et j'avais ce besoin de partager avec les autres. Et c'est ça que j'ai trouvé aussi chouette, de tout de suite avoir envie de partager parce qu'on a de la colère, de la tristesse, parce que on est exalté aussi face au-delà du film, le travail des personnes qui ont pu tourner ce film. Enfin, ouais, beaucoup d'émotions.
L'émotion est nécessaire, vous, d'après vous, pour porter à la connaissance ou comprendre ce qui se passe ailleurs?
Oui, je pense que c'est absolument nécessaire, puisque c'est la base d'un être humain, de ressentir des choses, pour pouvoir avancer, les partager, aller de l'avant.
Oui, il y a une plus forte prise de conscience quand les choses nous touchent et qu'elles sont amenées d'une certaine manière. Ouais. Moi, après, pour répondre à la question précédente, je sais que ce qui me frappe, ce qui m'a frappé chez Ad Hoc l'année dernière et pareil cette année, c'est que je m'aperçois que j'aime beaucoup les portraits, en fait, enfin, des choses qui, de ces documentaires qui suivent une ou plusieurs personnes, mais où on se... Il y a un côté intime un peu, et ça, c'est extrêmement touchant, quoi, et selon les... Enfin, qu'importe les sujets, même les... Enfin, il y a un côté, et il y a un des documentaires cette année qui est un peu frappant pour ça. Enfin, il y a un côté... Il y a des côtés qui se rapprochent, qui, moi, me rappellent un peu ce truc de la télé-réalité, par moments, dans le documentaire, où vraiment, il y a un côté... on rentre dans l'intimité des gens, et... ouais, c'est quelque chose qui... Je sais pas, moi, qui me frappe un peu, parce que ça parle directement, ça fait réfléchir sur soi, aussi. Et ouais, c'est d'autres choses, hein. Après, il y a des... Il y a d'autres documentaires qui traitent vraiment de sujets et qui s'attachent peut-être un peu... Enfin, qui s'attachent quand même aux gens, mais où on voit un certain nombre de personnes. Enfin, c'est des interviews. Mais c'est vrai que l'année dernière et cette année, peut-être un petit peu moins, mais il y a beaucoup de portraits. Et moi, je trouve ça... je trouve que c'est ceux qui me marquent le plus, moi. En tout cas, ces dernières fois-là.
Est-ce qu'on peut, on pourrait dire que l'émission Striptease a apporté quand même beaucoup pour le documentaire ?
Bien sûr qu'on peut le dire.
Je pense que le documentaire un petit peu phare de l'année dernière, il évoquait pas mal. Je pense que ça a dû faire penser à plus d'une personne, ça a dû faire penser à Striptease. Hein. L'année dernière, on avait des portraits, ouais, mais cette année aussi. Cette année, il y a un documentaire qui s'appelle Panthère. Qui est sur une femme dont les gens disent qu'elle a un peu un grain, on va dire, et c'est un documentaire hyper fort. Alors ça a été un peu partagé, j'ai l'impression, dans la programmation là, il y a des gens que ça a un peu chamboulé et que ça a pas forcément mis très à l'aise. Alors c'est sûr qu'il met pas parfaitement à l'aise, hein, mais même moi, ça fait partie de mes coups de cœur aussi. Et pareil, enfin, c'est un peu les personnes qu'on voit pas à l'écran habituellement. Striptease, pour moi, c'est un peu ça, quoi, aussi. Et moi, je trouve ça génial, justement, de porter à l'écran ces gens auxquels on est capable de s'attacher, mais que ça parle pas à tout le monde, qu'on puisse s'attacher à ces gens-là. Et puis, en fait, le documentaire fait qu'on comprend déjà un petit peu mieux en quoi on peut s'attacher à ces gens-là. Enfin, moi, je vois ça comme ça, mais...
Alors, si je peux compléter sur Panthère, donc c'est un film qui est réalisé par Yann Berlier et Lola Cambourieux. Et Yann Berlier, c'est le fils de cette dame. Il a fait un documentaire sur sa mère. Et sa mère, c'est un drôle de personnage. Elle a 50 et quelques années. Elle refuse un peu de vieillir. Elle est un peu esquintée par une vie pas très facile. Mais ça nous fait penser à Striptease, parce que elle ose se montrer dans le documentaire et se montrer pas toujours à son avantage. Donc on se demande si elle se rend vraiment compte de ce qu'elle est en train de faire quand elle laisse son fils faire ce documentaire. Mais c'est dérangeant, mais c'est très beau, parce qu'elle est sans phare, elle est nature, et puis il se passe des choses assez fortes dans ce film. Donc voilà pour Panthère.
Tu veux faire quoi ? Si tu laisses pas faire, t'es morte. Donc peut-être qu'il faudrait mieux changer de discussion, tu crois pas là-dessus? Tu crois que j'ai l'impression que t'es pas conscient de quelqu'un qui barge au complet, de comment il peut devenir, de comment il peut être quand il a ses coups de folie, je crois que t'en es pas conscient du tout.
Un peu, je suis conscient quand même.
Non, mais... t'en es pas parce que c'est facile de dire de te faire respecter. Quand une personne en face est un jobard et fou, casse tout dans une baraque, excuse-moi, mais tu peux pas te faire respecter. Pas possible.
Et tu peux partir, comme on dit.
Oui, je sais. Et les trois quarts des femmes ont les couilles de partir. Si j'avais suffisamment de couilles, je peux te dire que je serais partie depuis longtemps.
T'es partie quand même.
Oui, je suis partie. Ben, je suis partie le jour où ça a été un tel cauchemar qu'il a fallu partir. Avec les enfants sur le dos. Cachés.
Non, c'est fini. Mais... Tu l'as quand même fait, finalement.
Oui, mais j'ai attendu 12 ans pour le faire. Mon seul regret, d'avoir perdu 12 ans de ma vie.
T'as perdu 12 ans?
Oui, j'ai perdu 12 ans de ma vie.
C'était pas comme ça dès le début?
Malheureusement, si. Dès le début. Dès le début. Dès les deux premiers mois, je m'en suis aperçue. Dès les deux premiers mois, j'aurais dû réagir. Je ne l'ai pas fait. J'ai laissé durer 12 ans. 12 ans avant de réagir.
Ça t'a libéré quand t'as réagi ?
Mes enfants, oui. Pas pour moi, puisque depuis, je m'en libère pas. Puisque depuis, ça m'a foutu ma vie en l'air.
Comment ça, depuis, ça t'a foutu ta vie en l'air?
Pas plus heureuse maintenant.
Donc on est tous ça ensemble, tranquille.
Si je suis. Oui, je suis plus. Je pourrais jamais l'être tant que j'ai ce fantôme qui est derrière moi.
Donc Panthère et Freeman, est-ce qu'il y a encore d'autres films à qui vous souhaitez beaucoup de carrière?
Alors on peut parler d'Ankar, le film qui est projeté en séance d'ouverture au cinéma Eden à Cré le 4. Donc c'est une jeune fille qui accompagne son père cambodgien de retour dans son pays et qui part à la rencontre de ses anciens bourreaux. Elle le ramène dans son village où vivent encore ses anciens bourreaux et donc il y a des séquences de confrontation calme où il ne se dit pas forcément grand-chose, mais il y a beaucoup de choses qui se disent autrement et qui est vraiment très fort. Sinon, j'aimerais bien parler par exemple du film « Soleil noir » de Camille Courcy et Charles de Cochecou. C'est un film sur la bataille de Mossoul, sur la libération de la région de Mossoul. Donc il y a des quantités d'hommes venus de tout l'Irak, des milices qui s'allient pour reconquérir la plaine de Ninive. Et c'est un film où vraiment les réalisateurs ont pu être embarqués avec les équipes et on suit ça de très près. Et c'est un film un peu dérangeant. Je parlerai bien de Au pied de la lettre, qui est un film très sympathique de Marianne Bressy, où on rencontre un gars qui est artisan, couvreur de toit, et qui essaye d'apprendre à lire. Et c'est très touchant parce qu'il est très sincère, il s'ouvre vraiment d'une manière très sincère, et on voit son combat d'homme illettré qui essaye d'apprendre à lire pour réussir à changer de travail. Et il réussit. Et c'est très chouette de voir des scènes avec ses enfants qui sont eux-mêmes à l'école et qui apprennent à lire en même temps que leur père.
Allez, on parle des étoiles de Stern.
Ouais, moi j'ai beaucoup aimé ce documentaire de Gad Abitan, donc c'est Les Étoiles de Stern, qui se passe en Israël. Et c'est des problématiques auxquelles j'avais pas du tout songé. J'avais pas songé à l'existence de ces problématiques-là, donc ça se passe dans un quartier très populaire où il y a une diversité de gens qui viennent un peu des quatre coins du monde. Et donc c'est un vieil immeuble où le réalisateur habitait, je sais pas s'il a déménagé, mais et donc il filme son voisinage pendant un certain temps les changements aussi de son quartier, parce que le quartier voit arriver de plus en plus de familles orthodoxes. Et voilà, et c'est un peu... Il y a une espèce de guéguerre un peu qui s'instaure entre les orthodoxes et ces gens qui ne sont pas aussi à cheval sur la religion, enfin en tout cas qui... Et c'est hyper intéressant comme problématique... Voilà, moi j'ai trouvé ça passionnant, et puis c'est très touchant, c'est très proche des gens aussi. On baigne dans un lieu de vie, c'est hyper chouette pour ça, ouais.
Voilà, un film tourné sur une période de 9 ans, hein. Voilà, donc, 9 ans. Ça laisse voir le travail du temps en tout cas. Mm-hmm. Est-ce que la sélection de vos documentaires prennent en compte la probable susceptibilité de son public ?
C'est difficile de faire des sélections. En gros, on sélectionne... On est beaucoup, on est un groupe, hein, et donc il y a des discussions longues pour arriver à un consensus et qu'on soit tous d'accord sur les sélections. Et les discussions sont quelquefois... c'est très partagé, hein. Et puis souvent, les gens changent d'avis au fur et à mesure des discussions autour de la table. Mais... Ben, on se bride pas trop par rapport à d'éventuelles réactions du public, non. Là, on a pris certains films dont, par exemple, on a noté sur le programme qu'ils étaient réservés, qu'ils pouvaient pas être vus par les plus jeunes, on l'a bien noté, mais on se limite pas trop, non. Dans la mesure où le film nous paraît traiter un sujet intéressant et que le film est, selon nous, un film qui a de l'intérêt du point de vue de sa réalisation, on le passe. Et Panthère fait partie peut-être des sujets, des films un poil dérangeants, mais pas trop quand même, hein, faut pas.
Puis il me semble, mais par contre au niveau de la prise de comment dire, d'imaginer un peu ce qui pourrait plaire au public, je voudrais pas dire de bêtises, mais vu le nombre et la diversité de programmateurs qu'il y a dans l'équipe. Moi, je pense que déjà rien que de ce fait-là, y a déjà. Ça reste, c'est déjà un premier public. Hein. Vous êtes combien déjà en programmation ?
Oui, parce que dans l'équipe de programmation, on a mélangé des gens qui sont un peu plus dans le milieu du cinéma et puis des gens qui le sont un peu moins. Donc, c'est une commission avec des gens d'origine très variée. Donc. Tous les points de vue sont écoutés et je pense que le public, oui, la commission programmation, c'est un gros boulot. On est au départ sept groupes de cinq qui se répartissent les films reçus. Ces petits groupes évacuent certains films et en font remonter d'autres qui sont après vus par tout le monde. Et quand tout le monde a vu tous les films, on se met autour d'une table et on dit « lesquels on garde ?» Et on fait ça de janvier jusqu'à mai. Donc on fait ça très consciencieusement et je pense que le choix qu'on fait, les films sont vraiment très... très divers par leur sujet, par leur pays d'origine, par les façons de traiter. Il y a des films plus cinéma, des films plus faciles, des films sur des sujets un peu plus durs, des films sur des sujets un peu moins durs, plus politiques ou moins. Enfin, c'est vraiment très varié. Je pense que les gens sont habitués à ce qu'ad hoc on trouve plein de choses, et puis il faut se laisser surprendre, quoi. C'est un peu l'idée. Voilà.
Alors oui, sur le festival ad hoc, il y a un espace accueil Donc avec des bénévoles qui sont là pour vous accueillir, avec plein de documentation, dont le programme. Et donc ce sont des personnes qui ont vu les films en amont et qui sont aussi en capacité de vous raconter un petit peu et de vous dire justement, bon, bah là, pour vos enfants, il y a ça qui peut être difficile. Donc c'est aussi aux parents. Enfin, en tout cas, l'année dernière, quand j'étais bénévole à l'espace accueil, il y a des parents qui étaient ravis d'avoir un petit mot sur le film et de dire « Ok, j'amène mon enfant, je suis conscient qu'il y a cette scène qui peut être choquante » ou « Non, j'amène pas mon enfant ». Et du coup, il y a aussi se laisser porter, parce qu'on peut aussi, à un moment donné, cacher les yeux ou dire « Bon, bah ok, on sort ». Enfin, c'est pas non plus... Ça reste des films faits par des êtres humains. Et du coup, voilà, il ne faut pas hésiter à passer à ce petit point accueil qui est très agréable pour avoir toutes les infos, les questionnements, qui sera sur le stade du site.
Alors, autour de ces documentaires, vous proposez, comme vous le disiez, des tables rondes, certainement avec la présence des réalisateurs.
Voilà, donc trois tables rondes, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et le dimanche. La première table ronde est sur la production de documentaires. Donc le titre est « Ont-ils agi seuls ? Autoproduire son documentaire ?» Donc bien sûr que des réalisateurs et des invités sont là pour animer les tables rondes qui sont, je le précise, ouvertes au public. La deuxième table ronde, c'est sur le thème de la projection des documentaires. Donc c'est un peu pour discuter de modes de diffusion un peu alternatifs. Donc comment diffuser des documentaires en dehors des festivals, en dehors de la télévision, du cinéma, les emmener au plus près des gens. Et on essaye, dans la mesure de nos moyens, de développer ça à ad hoc. On appelle ça le ad-off. Et on essaye d'organiser dans l'année des petites projections dans des petits lieux pour développer la diffusion de documentaires d'une manière un petit peu différente. Et puis, la table ronde du dimanche, elle est animée par Radio Saint-Ferréol sur le documentaire sonore. Donc, ça sera aussi animé par des réalisateurs sonores qui seront présents et animé par RSF. Et c'est un domaine qui a pas mal de succès à ad hoc. Hein. Les oreillettes de RSF font le plein à chaque diffusion et les gens sont vraiment très contents de s'étendre sur les tapis dans notre tente caïdale et de se laisser emporter par les ambiances des documentaires sonores. Et de pouvoir parler aussi avec les réalisateurs à l'issue des diffusions de documentaires sonores, parce que c'est le même principe que pour les films.
Marine, votre fonction au sein du festival est précisément laquelle ?
En amont du festival, c'est la co-organisation des réunions bénévoles, donc parce qu'il y a beaucoup de personnes à Mirabel et Blacon et autour de Mirabel qui sont engagées depuis plusieurs années, donc cette année c'est la cinquième année. Donc ce sont des personnes très investies bénévolement, donc on fait des réunions pour qu'ils puissent être au courant de où ça en est au niveau de l'organisation et aussi qu'ils puissent s'inscrire sur des postes qui leur fait plaisir parce que c'est eux voilà, qui sont là depuis longtemps. Donc il y a ça, les réunions et après les gens peuvent s'inscrire sur le site internet d'ad hoc via un formulaire bénévole et c'est moi qui les reçois et qui leur propose du coup des créneaux horaires selon leur jour de disponibilité et le plus possible selon leurs envies. Il y a 15 postes différents à ad hoc du jeudi au dimanche minuit, jeudi midi au dimanche minuit, donc ça fait beaucoup de besoins et ça fait des grandes amplitudes horaires, donc c'est pas toujours facile de faire plaisir à tout le monde, mais en tout cas voilà, le but c'est que les gens se sentent bien, puissent aussi profiter du festival. Donc les personnes qui viennent travailler bénévolement, ils ont le pass pour voir tous les films qui sont normalement à prix libre, et puis ils ont un repas et puis des boissons qui est quand même un petit retour sympathique. Et du coup, pendant le festival, je tente de les accueillir au mieux, de mettre en place le plus de choses possibles pour qu'ils se sentent à l'aise. Donc cette année, il y aura un espace accessible pour les bénévoles et aussi pour les réalisateurs et le staff des rencontres ad hoc, voilà, pour se poser un peu, se restaurer, échanger aussi, pouvoir se rencontrer. Il y a eu un trombinoscope qui a été mis en place aussi pour que les gens puissent visualiser le visage de chacun et mieux se rencontrer, puis c'est un peu rigolo. Et puis, je ne vais pas en dire trop plus parce que j'ai envie d'animer un petit peu pendant le festival les rencontres des gens, donc ce sera des surprises. Voilà, peut-être que j'oublie des choses, mais...
J'imagine bien qu'il y a ce qu'il faut, des structures environnantes qui puissent permettre d'accueillir, justement. Mais ça, c'est une information à donner aussi.
Oui, mais il faut bien préciser et remercier Gervin Camping qui nous offre 2 emplacements gratuits pour que tous nos bénévoles qui ont besoin de planter une tente puissent planter la tente. Donc merci à eux, et puis ils font des réductions pour les festivaliers. Sinon, les réalisateurs et tous les invités sont gentiment logés par des hébergeurs bénévoles dans le village et autour. Donc grand merci à tous les bénévoles.
Ce festival, chaque année, prend de l'ampleur à vos yeux ?
Oui, prend de l'ampleur. L'an dernier, on a eu 3300 entrées cinéma. C'était plus que l'année d'avant et ça augmente chaque année. C'est bien, ça veut dire que les gens dans la région s'intéressent au cinéma documentaire et ils apprécient ce qu'on leur propose. Nous, ce qu'on aimerait, on est content que les gens viennent. On n'a pas envie non plus de devenir un festival énorme. Donc on aimerait rester un festival à taille humaine et qui garde encore la convivialité et l'aspect chaleureux qu'il a et qui est surtout en partie lié au fait que ce soit pas trop gros. Donc on a essayé de faire en sorte cette année, en multipliant les rediffusions, d'accueillir dans de bonnes conditions tout le public. Mais on ne sait pas tellement comment faire pour que ça ne devienne pas un festival énorme.
En fin d'après-midi, des apéro-concerts, et donc proposition de un concert par soirée à partir de jeudi. Et donc vous proposiez, comme vous le disiez, des formations régionales ou locales. On vous présente plus Valiant Gracias, hein, qui sont passés beaucoup de fois ici. Nu, par exemple, ça c'est un mystère pour Erdiwa.
C'est vrai ?
Oui, on ne les connaît pas tellement en fait.
Bah parce que, ils tournent quand même pas mal et ils commencent à être un petit peu connus dans la région, en tout cas dans la Drôme. Nu, comment expliquer Nu ? C'est de la chanson, mais c'est ce qu'ils appellent de la chanson d'amour et de fesses. C'est un trio, donc, si je ne m'abuse, guitare, basse, batterie, et avec Émilie Auchan qui a un côté un peu clown, en tout cas c'est une vraie prestation scénique, quoi. C'est un peu théâtralisé et c'est très très drôle, et puis ils se sont vraiment bien trouvés tous les trois, donc c'est vraiment génial à regarder, je le conseille vivement.
Et puis Bazar, hein, pour le samedi, pareil, un groupe du coin. Sans certitude, je peux enlever la question. Hein.
Ouais, un groupe du coin, je ne sais pas. Après, vous les connaissez, vous, Bazar et Roots ?
Non.
Non.
Mais Roots Rio, oui.
Tu connais, toi, Roots Rio ?
Roots Rio, c'est du jazz et c'est de la région, puisque dans Roots Rio, il y a Étienne Roche à la contrebasse, qui est un musicien qui est connu quand même dans la Drôme et que tout le monde apprécie beaucoup. Voilà. Donc c'est vraiment du jazz de qualité par un groupe très, très sympathique. Mais Bazar ?
Bazar, on peut en dire quelques mots, même si on ne connaît pas, hein, c'est pas grave. Hein.
Oui, Bazar, on peut au moins dire le style, peut-être.
Alors Bazar, c'est un peu un ovni musical, c'est de la musique du monde. Avec des instruments divers et variés, notamment cora et saxophone. Et voilà, bon, ça part un peu aux quatre coins du monde. Ça, c'est pas limité du tout dans les styles musicaux.
Ces journées ad hoc, du matin jusqu'au soir, il y a des échanges, des rencontres qui s'organisent, comme par exemple Marine laisse supposer pour cette édition.
Une journée ad hoc, c'est les tables rondes le matin de 10h à midi, c'est les rediffusions du matin, donc dans deux salles au lieu d'une cette année. À midi, bien sûr, il y a une restauration proposée. Et ensuite, dans une journée type, c'est deux projections dans deux salles à 14h, deux autres projections à 16h. Sur le samedi et dimanche, à 14h30, il y a les documentaires sonores dans la tente Caïdal. Et ensuite, c'est à 18h l'apéro-concert. Et une grande soirée plein air à 20h30 dans notre superbe lieu. Et voilà la journée ad hoc. Et tout ce monde reste sur le site, s'assoit aux tables, boit des bières et discute tranquillement tous ensemble. Enfin, l'ambiance, c'est ce que les gens disent. Quoi. Il y a des contacts, les gens se parlent entre des films, ils se conseillent des films les uns aux autres. Et c'est pour ça que les rediffusions, c'est très bien, parce qu'il y a beaucoup de bouche à oreille. Donc on peut revenir le lendemain ou le surlendemain voir le film dont les gens ont parlé à côté de nous à une table et qu'on a envie de voir. Et puis à côté de tout ça, j'ai pas parlé de ce qu'il y avait autour du festival, donc j'ai parlé de Germaine, mais on a aussi cette année, j'ai parlé de la Caravadoc, oui. Donc une diffusion en continu de cours, de documentaires de cours en caravane, et dans Caravadoc, il y aura la web-série itinérante qui a pour nom Sideways. Donc c'est une équipe qui parcourt la France et peut-être même plus en camion, en rencontrant dans les endroits où ils vont des gens qui tentent des modes de vie différents ou qui ont des projets un peu originaux. Donc dans le programme, on note qu'on retrouve dans les documentaires de Sideways un berger qui fait du parcours avec ses chèvres en proche banlieue parisienne, ou un boulanger qui a réinventé son métier, etc. Donc Sideways, ils vont proposer leur petit sujet à l'intérieur de la caravane documentaire, et on pourra rencontrer l'équipe tous les jours à 17h. Et sinon, comme d'habitude, il y aura un atelier de réalisation vidéo pour des jeunes à partir de 12 ans. Donc ils réalisent un journal du festival qui est diffusé le samedi soir à la séance plénière. Et puis on accueillera encore cette année l'atelier Gribouillis qui nous fait de magnifiques t-shirts sérigraphiés. Donc voilà pour ce qui est sur les à côté.
Et les films qui sont proposés en projection, est-ce que vous avez une proposition de vente, de support, DVD ?
Il y a un chapiteau d'accueil, et dans ce chapiteau d'accueil, on a proposé aux réalisateurs et aux boîtes de production et tout ça de ramener, s'ils avaient, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore fait, pas encore pressé de DVD, mais normalement il y a des ventes de DVD, il y aura probablement des affiches. Alors, il y a d'autres choses. Hein. Il y a aussi des petites expositions qui sont de photos ou d'œuvres en lien avec certains documentaires. Il y a des livres aussi. Enfin, ça ne s'arrête pas qu'au DVD. Il y a aussi des choses qui tournent autour des films ou des réalisateurs de ces films. Donc, voilà, il y a vraiment un espace d'échanges énormément aussi qui serait susceptible d'être un bon endroit aussi pour croiser les réalisateurs ou discuter justement voilà le vraiment le chapiteau d'accueil est dédié à ça quoi.
Brigitte, par rapport tout à l'heure vous disiez que il existait de maintenant le festival Adolf ou une structure ad hoc qui permet de prolonger des projections ou des propositions tout au long de l'année.
C'est notre projet. Pour l'instant, c'est un peu c'est un peu limité ce qu'on fait, parce qu'on a, ça demande des forces aussi. L'an dernier, on a fait une projection au Lux, la scène nationale de Valence. On a fait des choses avec la médiathèque de Cray, avec la MJC de Oust. Et on aimerait bien le développer, mais pour l'instant, ça en est un peu là. Mais c'est vraiment un projet, que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, de favoriser la diffusion dans des petits lieux, à proximité des gens, de documentaires qui méritent d'être diffusés, parce que la situation du documentaire est un peu difficile, quoi. La télévision en passe peu, le cinéma peu aussi, et donc il faut arriver à faire vivre ces films en dehors des circuits habituels.
Bon, si je ne m'abuse, il me semble qu'on peut presque lancer un peu un appel, parce que s'il y a des lieux que ça intéresse, il ne faut pas hésiter, j'ai l'impression, à contacter. Notamment, les bénéfices du festival de l'année dernière ont notamment permis à l'association d'investir dans du matériel pour pouvoir faire des projections ad hoc. Donc voilà, l'idée c'est aussi d'aller porter des films dans les lieux qui n'ont pas forcément le matériel non plus pour faire les projections. Donc voilà, si c'est pas forcément évident en effet de trouver toujours des gens pour aller organiser ces choses-là, en tout cas s'il y a des gens qui sont prêts à organiser et qui seraient intéressés, faut pas hésiter à contacter l'association, quoi.
Tous ces renseignements, on peut les retrouver aussi par rapport au festival sur le site internet, hein, les rencontres ad hoc, toutattaché.com. Brigitte, Marine et Colline, je vous remercie d'être venues nous présenter ce 5e festival, ce rencontre ad hoc. Voilà.
Merci.
Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Merci beaucoup.
Oui, vas-y, bouge un peu. Oui, on sent un petit peu quelque chose. Et si tu touches? Oui, si on touche, c'est un peu double.
Voilà, alors on va tenter de déterminer le territoire. On prend le ring comme déterminant, voilà, on va le mettre comme ça, voilà, ce serait le ring. C'est l'intérieur de Charleroi, donc l'infra-ring et l'extra-ring. Ici, la Sambre, qui rentre dans Charleroi, qui fait comme ça, qui repart comme ça. Ici, il y a plusieurs terris. Ici, il y a le terri Saint Théodore, ici les Piges, on voit Charleroi, comme ça. Ici le plus grand terri, Boubier, Châtelet, près de la Sambre, voilà. Ici le terri brûlant de Ransard. En deçà, ce qui nous intéresse évidemment, ce sont les galeries et l'inframont, l'autre monde. Voilà. Est-ce qu'on voit quelque chose de ce territoire? Rien. C'est pas d'une clarté limpide, quoi.
Non.
Je veux rendre compte du monde souterrain. Le monde souterrain existe. Je l'évoquerai.
Mais la grandeur passée de cette ville et ses trois effondrements relèvent du monde d'en haut. Comment, après 40 ans d'un long désert, une forme de renouveau est apparue.